Je suis au bord du lac Léman, et précisément à l'hôtel Métropole à Genève, et je retrouve Anna Moglalis. Bonjour.
Bonjour.
On s'était vu il y a 12 ans déjà, avec votre fille qui venait de naître quasiment. Et là, on se retrouve pour le dernier long métrage de Frédéric Chauffat et Julie Gilbert, My Little One. C'est un film qui se passe dans le désert du Nevada, de l'Arizona,
Arizona,
terre Navarro, et vous interprétez Jade. On va pas en dire plus tout de suite. Comment vous êtes arrivé à ce projet et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage?
Là, j'ai rencontré Frédéric Chauffat et Julie Gilbert à Paris. C'est eux qui m'ont sollicité. J'ai été séduite tout de suite par le scénario qui tenait à un fil, mais qui était. Je trouvais une superbe réflexion, mais enfin le film n'est pas réflexif, il est plus intuitif, mais
sur
le rapport à la mort, voilà, avec cette ouverture sur la pensée Navarro, la mythologie Navarro, qui est vraiment un autre monde, parce qu'on a tendance à oublier, on est dans cette ère de la mondialisation, mais il y a vraiment des modes de pensée très très différents, et on est dans un monde rude par rapport justement à la mort, la maladie. Tant qu'on va bien, qu'on peut consommer dans nos sociétés capitalistes, tout va bien, mais c'est vrai que de toute façon la vie finit, et il y a des pensées ancestrales comme ça qui viennent apporter autre chose, et j'ai trouvé que ce film était un poème, et j'ai eu un plaisir infini à me plonger dans cette pensée que je ne connaissais pas, dans l'histoire aussi des Amérindiens, pour pouvoir incarner ce personnage très beau, une femme qui décide de partir, de vivre autrement. C'est encore possible, mais bon, on connaît, hein, y a des films, par exemple, c'était quoi, la forêt d'émeraude, enfin tous ces films qui déjà parlaient de ces communautés qui vivaient de la même façon depuis des siècles, et qui ont tendance à disparaître, à être avalés, exterminés, et donc ça a été une sacrée traversée puissante, mais elle vit encore, vraiment.
Alors, corrigez-moi si je me trompe, moi j'ai ressenti aussi que Jade, la personne que vous interprétez, il y a une dimension un peu de chimère, d'icône beatnik pour ces deux hommes qui l'ont follement aimé, ils se sont follement aimés, ils sont restés sans nouvelles pendant 10 ans, et là ils sont convoqués au milieu de ce désert, et elle reste encore mystérieuse, énigmatique pendant un moment, puisque c'est à travers une fillette qui transmet des informations, qui parle de sa maman, qu'ils ont des nouvelles sans la voir. Ça, c'est aussi un rôle particulier, parce qu'on ne vous voit pas tout de suite à l'écran. Et quand vous apparaissez, apparemment, Jade n'est pas au mieux de sa forme non plus. On découvre certaines choses. C'était intéressant d'être un petit peu en fait en filigrane pendant une partie du film.
De toute façon, moi, quand je choisis les films, je choisis tout le film. J'ai rarement choisi des rôles. Donc effectivement, le sujet du film, c'est aussi l'absence de cette femme. Donc c'est ce qui m'a touchée, c'est toute la portée émotionnelle. Après, l'incarnation beatnik, justement, pour moi, elle est, c'est pas que ça, dans la mesure où on voit bien, il y a deux personnages qui auraient pu vivre ça, puisque jeunes, ils étaient au même endroit, en ayant envie d'être des mêmes choses. Et la seule qui a vécu cette ostracisation volontaire, c'est elle. C'est plus puissant que ça, parce que ça a une réalité au quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce dont elle parle par rapport à l'éducation de sa fille, le fait qu'elle la tienne à distance des institutions. Bon, alors sachant qu'on est aux États-Unis, de toute façon, même dans l'école publique, les choses sont compliquées, enfin, tout est payant. On n'est pas dans cet idéal de la République qu'on peut avoir.
Moi, je suis l'école française,
voilà. Il n'y a pas ça. Donc, de dire, non, je ne peux pas que ma fille soit manipulée intellectuellement. Je préfère qu'elle fasse son apprentissage avec les gens avec lesquelles elle vit, dans cette nation, hein, c'est une nation Navarro, mm-hmm. parce que les Navarros, qui n'étaient pas si nombreux que ça, sont presque les seuls à avoir réussi dès le début à négocier avec les colons pour obtenir une nation. Alors, à rétrécir, c'est un désert. Hein. Dès qu'on sort de la frontière de la nation, il y a des arbres. Hein. À l'intérieur, il n'y en a pas. C'est redoutable. Mais, donc pour moi, c'est pas beatnik. Mais effectivement, il y a eu cet esprit beatnik aussi magnifique dans un monde industrialisé, super économique, tout à l'économie, où des gens ont décidé de se replier, de vivre. Et là, on parle d'une femme qui vit avec sa fille dans un mobilhome au milieu du désert, sous un ciel sublime.
Vous mentionnez, Anna, la nature, c'est un protagoniste à part entière là, dans ce film. Ouais. Et j'imagine que cette nature, d'être sur place aussi, ça doit être un sentiment de plénitude. Peut-être on voit l'immensité de la nature par rapport à l'évanescence des êtres humains. C'est un peu question du film aussi.
Oui, c'est ça. Il y a cet endroit qui perdure. Alors après, avec toute l'histoire aussi de cette nation, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de temps pour rencontrer des gens, parce que toute une partie de l'équipe était Navarro. J'ai pu explorer cette nation, mais monter dans des terres où voilà, il y avait des minorités encore plus petites que les Navarros, qui étaient maltraitées par les Navarros. Enfin, c'est toute une histoire de la barbarie humaine qui finalement n'a pas de fin.
Mais, qui est universelle, malheureusement.
Voilà. Vouloir l'éradiquer, c'est une utopie merveilleuse, mais c'est une utopie, je pense. Mais c'est important d'avoir des utopies. Enfin, c'est même plus qu'important, c'est vital.
Vous en avez ?
Ah oui, oui. Mais moi, j'ai cette utopie de la République, de l'égalité, de la fraternité, bien sûr. Puis ça m'en fout. Sinon, je vivrais en ermite.
Un admirateur qui s'agite à côté de nous là. Mis à part ça, il y a aussi le choix musical. Est-ce que vous avez vu le film fini avec le choix musical justement de Frédéric et Julie?
Alors même plus que ça, c'est moi qui ai présenté Yann Péchin à Frédéric.
Ah bah alors merci.
Voilà.
Donc excellent choix musical.
Ah bah, Yann Péchin, c'est un génie. Il faut absolument le voir sur scène. Mm-hmm. Parce que c'est quelqu'un qui est habité. Lui, il traversera les siècles sans doute, mais il est habité par la musique. C'est un guitariste hors pair. Et il y a tellement de gens qui se réfèrent à l'esthétique rock. Pour lui, c'est pas une esthétique, c'est vraiment un mode de vie. Quoi. Ouais. Il est incroyable. Il a joué avec les plus grands musiciens. C'était très beau. Moi, j'ai admiré Yann sur scène souvent. Et puis là, d'ailleurs, j'étais assez impressionné. Mais c'est quelqu'un qui détruit cette impression. On était dans le travail et c'était joyeux.
Alors vous étiez donc conseillère artistique pour la musique, merci en tout cas de votre intervention. Et par rapport au travail avec Frédéric et Julie, Julie est plus souvent côté scénario, mais j'imagine que c'est quand même un quatre-mains. Comment vous avez travaillé avec eux?
Enfin, Julie, elle était sur le plateau en permanence, elle est co-réalisatrice. Mmh. Et comme l'écriture émanait d'elle, on se référait souvent. Puis c'est vrai qu'elle a une sensibilité à laquelle je suis très... je reçois très très bien. Donc on a eu des discussions, on a remis en question certaines scènes, certaines fois. C'était un interlocuteur très précieux sur le plateau, Julie. Vraiment, très précieux.
Avec des suggestions de votre part aussi pour...
Oui, mais juste elle était là, et puis parce que Frédéric, lui, cadre, non seulement il réalise, mais il cadre, donc la présence de Julie était primordiale. Parce qu'elle voyait sur l'écran ce que Frédéric filmait, parce qu'on peut réaliser les scènes de plein de façons. Et dans, dans voilà, le, le récit, la puissance narrative, la présence de Julie était très très importante.
Nécessaire.
Ouais, vraiment.
On peut mentionner rapidement, parce que votre filmographie est abondante, évidemment Chabrol, Merci pour le chocolat, c'était ici.
À Lausanne.
Voilà, et puis ça a été vraiment une révélation pour le public de vous découvrir. Après, bien sûr, Desplechin, Lensfar, vous avez vraiment une multitude, vous avez aussi beaucoup d'intérêt pour le cinéma indépendant. Vous avez encore des fantasmes nombreux de réaliser avec certains réalisateurs ou réalisatrices.
Bon, moi j'ai besoin du désir du réalisateur. J'ai jamais sollicité un réalisateur.
On vient vous chercher chaque fois.
Voilà, c'est une opération que j'arrive pas encore à concevoir. Alors que je me rends compte que c'est peut-être un peu bête. Au théâtre, par exemple, je l'ai fait pour la première fois là, et je travaille avec un metteur en scène que j'admire, qui est Julie Brochen. Et effectivement, je l'ai sollicité. Bon. Mais pour le cinéma, mettons que les rêves sont à l'endroit de la réalisation. Donc je suis en train d'écrire et ça prend son temps. Mais c'est un film, un film que je ferai demain, dans 2 ans, dans 10 ans. Mais ce film existera, c'est sûr. Et c'est un horizon. Mais j'ai plein d'envie, j'ai plein d'envie de jeux. Mais j'aime bien quand elles viennent me faire signe.
Et qu'on a écrit pour vous.
Qu'on a écrit pour moi.
Ou en pensant à vous.
Je suis même pour les essais. Mm-hmm. C'est quelque chose que... Parce que l'essai, c'est pas juste le comédien qui veut absolument jouer. C'est aussi le comédien qui se retrouve face à un metteur en scène. Et pendant l'essai, il peut comprendre, réaliser. Il peut travailler avec ce metteur en scène ou pas. Parce qu'autour d'un café ou d'un verre de vin, on peut avoir très envie des mêmes choses. Après, on parle certaines fois dans la même langue, des langues différentes. Mm-hmm. Et puis certaines fois, il y a des projections qui sont trop fortes. On voit bien qu'on n'est pas regardé à un endroit qui nous intéresse. Ou de la même façon, on peut avoir beaucoup de respect pour un metteur en scène, mais finalement ne pas être capable d'entrer dans son mode opératoire.
Et dans son univers.
Voilà. Mmh. Voilà. Et pour moi, maintenant, ce qui est primordial, parce que je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne me nourris pas du tout du conflit. Donc, jamais travailler avec des gens avec lesquels... toute la recherche, tout le travail que je peux accomplir est finalement accueilli.
Dans un échange fluide.
Voilà, mais la défiance à mon endroit, parce qu'en tant que femme, souvent le fait que j'ai pu m'intéresser au sujet, pour moi c'est juste en plus une façon d'aménager mon angoisse aussi. Hein. Je travaille énormément parce que j'aime ça, j'aime lire, j'aime apprendre des choses, mais certaines fois je me suis retrouvée avec des metteurs en scène qui pouvaient s'être moins informés sur le sujet que moi et qui prenaient ça comme... Ils étaient défiants.
C'est que leur ego est meurtri, peut-être.
C'est difficile d'être metteur en scène aussi. Hein. C'est fou de faire un film. Je le sais. Mais moi, je n'ai jamais amené mon travail comme une critique. Un film, ça se fait à plusieurs.
Un échange. Ouais. Vous mentionnez le théâtre aussi. Au théâtre, il y a cette relation organique avec le public. C'est ce que vous aimez, j'imagine, qui vous manque au cinéma.
Oui, alors, ça dépend. Sur les tournages, certaines fois, il y a des équipes qui fédèrent. Moi, j'aime les tournages sur lesquels le moment de la prise, l'instant de la prise, est un peu sacralisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tournages sur lesquels toute l'équipe regarde son téléphone, fait des jeux... Pendant la prise, ça peut me rendre folle.
C'est un peu le reflet de la société, hein, si vous regardez les transports.
Non, je sais bien.
Vous êtes dans le train maintenant, il n'y a plus personne qui a un livre, hein, quasiment.
Oui, mais le train, tout le monde est en transit dans le train. Mmh. Donc, bon, que les gens s'échappent, ou c'est triste, parce qu'effectivement, les échanges de regards sont un petit peu moins fréquents. Il y a beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, mais finalement, la rencontre est impossible à l'extérieur. Mais À part ça, le plateau, il y a déjà un public sur le plateau, donc ça peut être immense. Mais le théâtre est très particulier, c'est que cette possibilité de reproduire chaque soir ce jaillissement, c'est vrai que c'est jubilatoire.
Là, comme je mentionnais en début d'interview, on s'est vu il y a 12 ans à Locarno, le temps passe. Et là, vous êtes à l'opposé de la Suisse, du côté de Genève. Quel est votre rapport avec la Suisse en particulier, avec le cinéma, les cinéastes suisses ?
Alors, mon rapport avec la Suisse, effectivement, enfin, ma carrière a commencé en Suisse. Puis je suis retournée à plusieurs reprises. J'avais tourné un voyage aussi, réalisé par le père de ma fille. Et puis il y a eu cette rencontre avec Julie et Frédéric pour ce film-ci. J'ai rencontré de très belles personnes. Je vois aussi que mon rapport à la Suisse, parce que j'étais pleine de projections. J'adore Nazım Hikmet, par exemple, ce poète turc qui se retrouve à traverser la Suisse alors même qu'il est arrêté. Et qui parle de la Suisse et de la montre suisse, mais comme un truc implacable. Donc j'étais vraiment là-dedans. Et puis je suis une amoureuse de la mer. Alors dans le lac, il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Et en même temps, j'ai été bouleversée. J'ai même eu des émotions esthétiques. Je pense que peut-être, quand on ne vient pas de Suisse, peut-être il faut un peu de maturité. Pour être bouleversé, mais il y a des lumières prodigieuses ici, prodigieuses, et tout est cinématographique quand même. Donc, et puis de rencontrer, que ce soit la presse, l'enthousiasme des producteurs, des réalisateurs, parce que c'est quand même un pays de cinéma, même si on n'a pas tant que ça, mais c'est un pays de cinéma, il y a toute une histoire de réalisateurs suisses. Goretta
qui vient nous quitter.
Tanner.
Bruno Ganz.
Bruno Ganz, magnifique Bruno Ganz. Donc, mais bon, il y a une relève aussi. Enfin, Ursula Meyer. Il y a une création suisse drôlement intéressante. Et critique. Et il y a plein de choses à critiquer. Non, je suis attachée. Je vois bien sûr du cinéma suisse.
Et vous mentionnez les paysages, ça a déjà inspiré Byron à l'époque, au lac Chillon.
Maria Schiller.
Voilà.
Maria Schiller.
Et pour revenir à quelque chose qui fait aussi votre atout, mis à part votre côté justement toujours un peu énigmatique, c'est votre voix. Et votre voix, elle est aussi maintenant très appréciée par de nombreux réalisateurs. On vous avait demandé au départ de travailler votre voix, n'est-ce pas ?
Plus que ça, on m'a demandé de subir une opération.
Quand je suis
entrée au conservatoire, on m'a dit « Vous avez une voix qui ne correspond pas du tout à votre physique, vous ne travaillerez jamais. » Donc le conservatoire m'avait proposé de me payer cette opération. Mais bon, bien sûr, j'ai pas voulu, on n'est pas des machines. Ma voix ou mon regard, c'est la même chose.
Vous avez bien fait de conserver et le regard et la voix.
C'est gentil.
Mais bon, mais non, je le pense sincèrement.
Aujourd'hui, j'ai l'âge de ma voix. C'est vrai que c'était plus compliqué plus jeune.
Plus jeune.
Mais ça m'a permis de rencontrer des metteurs en scène particuliers aussi.
Dernière question, parce qu'on doit vous quitter malheureusement déjà. Est-ce qu'on peut parler projet sans tabou? Et puis, est-ce que votre fille, qu'on avait connue toute petite à Locarno, va bien? Et est-ce qu'elle va aller dans le cinéma?
Alors, ma fille va très bien. Elle a déjà décidé qu'elle serait comédienne.
Ah ben voilà. C'est héréditaire.
Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, mais je suis ravie qu'elle puisse sentir la joie que ça peut procurer. C'est pas que simple. C'est un métier particulier, mais je suis ravie d'avoir pu lui transmettre ça, parce qu'il y a des périodes dans lesquelles on travaille, des périodes dans lesquelles on ne travaille pas. Mais tout est riche du désir, en fait. Et puis... Mais bon, être comédienne, mais en faisant des études, ça c'est acquis. C'est acquis aussi, il faut se nourrir en fait. Et c'est une personne que, que je trouve magnifique.
Comme sa maman. Et sa maman, donc, est-ce qu'elle a des projets?
J'ai pas mal de projets. Enfin, je vais jouer Mademoiselle Julie. Alors ça, c'est un rêve que j'ai depuis mon entrée au conservatoire, donc bien plus longtemps que notre rencontre. Je joue Mademoiselle Julie dans une mise en scène de Julie Brochane. Mon partenaire, c'est Xavier Legrand, qui a réalisé Jusqu'à la garde.
Bravo pour, en tout cas.
Et qui est un acteur extraordinaire.
D'une grande sensibilité.
Ah ouais, ben voilà, comme celle qui
émane de son film.
Comme metteur en scène. Donc je suis très 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 heureuse. On joue au Théâtre de l'Atelier à Paris. Et puis bon, il y aura
une tournée.
De toute façon. Et puis je redeviens présidente de la République française pour Barnum au mois de mai aussi, donc beaucoup de travail et je suis en pleine écriture d'un film.
Et dernière question, parce qu'il nous a quittés récemment, vous avez choisi comme égérie pour la maison Chanel Karl Lagerfeld, vous pouvez nous parler quand même de toute la richesse de votre relation?
Karl Lagerfeld, cette disparition crée un manque et un vide terrible. Moi, je connaissais Karl depuis 20 ans. C'est quelqu'un qui m'a accompagnée de son regard exigeant, dur, mais aussi extrêmement bienveillant, érudit pendant des années. C'est quelqu'un qui a changé ma vie, très simplement, de façon très triviale, parce que moi, il me tapait dans l'épaule tous les ans, en disant bon, allez, on re-signe, ça mettrait du beurre dans les épinards. Mais oui, ça a été aussi une grande liberté qu'il m'a offert à travers ça. Et puis, j'ai découvert énormément de choses, rencontré beaucoup de gens. Ça a été un cadeau, cet homme. Et puis ce rapport à la beauté, à l'artisanat aussi, parce que je disais toujours qu'il n'était pas un artiste, mais un artisan, puisqu'il faisait de la mode et que la mode était un art appliqué. C'est un homme d'une dimension folle, qui a dédié sa vie à ce qu'il faisait. D'ailleurs, il aimait à dire qu'il ne travaillait jamais, qu'il était passionné et qu'il ne serait jamais esclave d'un travail. Mais il dormait la tête juste très proche de ses solvants et de ses pigments, puisqu'il dessinait tout le temps. Pour moi, ça a été une vraie inspiration et une aspiration.
Merci beaucoup, Anna. Efkaristo.
Efkaristo. Parabouli.